Dimanche dernier, le pape François prononçait sa dernière homélie lors des JMJ de Rio. Notre foi nous offre une capacité d'aimer en plus et, fort de cet amour, une responsabilité pour changer le monde. Le pape envoyait les jeunes en mission, le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège.
C'est une envoi en mission avec lequel ces journées terminent. Et je pense que les jeunes vont repartir de Rio avec une force, une espérance, une capacité d'aimer accrue et avec un enthousiasme d'être part de l'Église. Ça, c'est un des aspects que le pape a touché dans la dernière homilie. Vous n'êtes pas seul, vous n'allez pas seul, vous allez comme communauté, comme personnes qui s'aiment et qui sont solidaires entre eux pour être aussi solidaires avec tous les autres. Pour comprendre bien la mission de l'Église dans le monde actuel, il faut partir de périphérie, il faut observer la situation du monde du point de vue des périphéries et des pauvres. Et je pense que les jeunes l'ont bien compris.
François est un pape missionnaire, un pape qui a bel et bien un ADN jésuite. Jean Mercier, journaliste à La Vie, était interrogé à l'occasion d'une messe célébrée par François dans l'église mère des jésuites à Rome, l'église du Gesù, en la fête de Saint-Ignace de Loyola.
Appartenance à la Compagnie de Jésus lui a donné toute une assise qui lui permet aujourd'hui, avec ses 76 ans, d'avoir cette sorte de capacité finalement de dire sa vérité sans se faire des nœuds au cerveau. Quand il parle de la nécessité d'aller vers les périphéries existentielles, quand on réfléchit à ce qu'a fait Ignace de Loyola avec tous ses frères qui se sont disséminés dans le monde à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, c'est exactement ça, c'est aller vers les gens différents, essayer de parler leur langage. Il est vraiment complètement passionné, habité par cet ADN des jésuites qui est d'aller vers les gens qui ne sont pas dans l'Église.
La presse retient cette semaine le déplacement de François à l'église du Gesù, sa conférence de presse inédite dans l'avion, mais aussi cette lettre envoyée par le pape aux musulmans à l'occasion du Ramadan, le cardinal Thoran, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.
Pour cette première année du pontificat, dans le contexte actuel, il a voulu lui-même indiquer que le dialogue interreligieux, en particulier le dialogue avec l'islam, est une des priorités de son pontificat. Je crois que le pape est tout à fait conscient que nous ne nous connaissons pas suffisamment, malgré tous les efforts que nous avons faits. Nous devons apprendre à nous respecter, à respecter nos croyances, à respecter nos rites, à respecter nos lieux de culte. Et là, les chefs religieux, évidemment, ont une très grande responsabilité dans la formation de leurs fidèles.
L'actualité internationale nous conduit à une centaine de mètres seulement du Vatican. En Italie, la Cour de cassation a rejeté un appel de Silvio Berlusconi. L'homme fort de la droite italienne est pour la première fois condamné à de la prison pour fraude fiscale. Les députés de son parti ont démissionné vendredi soir, menaçant le gouvernement de coalition. Mais est-ce vraiment leur intérêt? Giuseppe Bettoni est professeur à l'université de Tor Vergata.
On risque d'aller aux élections, donc il y a la fin du gouvernement de l'État qui pourrait s'approcher. Mais à partir du moment où on a des nouvelles élections, Berlusconi ne pourra pas se présenter, et ceci au-delà de la condamnation, de l'interdiction des charges administratives possibles. Parce qu'il y a une loi du gouvernement Monti qui empêche en fait toute personne condamnée de voie définitive, aussi pour fraude fiscale, à se porter candidate.
Élections au Mali, le premier tour s'est passé sans heurts et dans de bonnes conditions. Au Zimbabwe, ce serait la même chose. Amnesty International dénonçait des pressions politiques avant le vote, mais la communauté des pays d'Afrique australe ont validé le scrutin. Sans surprise, la ZANU-PF de Robert Mugabe, 89 ans, arrive en tête. L'analyse tout de suite de Vincent Darac, du groupe international SOS et Control Risks.
Mugabe, son ambition est de mourir au pouvoir, hein, plus que jamais. C'est très net d'ailleurs dans ce qui s'est passé autour du processus électoral. Mugabe a unilatéralement déclaré la date des élections sans consulter son premier ministre Tsvangirai, alors que d'après la feuille de route, il a tenu de le faire. La SADC lui a demandé de repousser la date des élections, il a refusé. Le MDC en a appelé à la Cour constitutionnelle pour repousser la date des élections. La Cour constitutionnelle, qui est largement noyautée par la ZANU-PF, a renoncé. Donc on voit très bien que Mugabe fait à sa tête pour essayer et de tordre le processus électoral dans son sens. Kabé n'envisage rien d'autre qu'une victoire, ce que les électeurs veulent lui donner ou pas d'ailleurs.
Pro ou anti-Morsi, aucun des deux camps ne relâche la pression. En Égypte, tous sont dans la rue. L'armée refuse, elle, de relâcher le président qu'elle a fait tomber en provoquant sa chute. Les militaires ont fait croire à une accélération de la révolution, à une relance des consultations populaires. Des promesses qui semblent bien loin aujourd'hui. C'est ce que nous explique François Burga, chercheur à l'IRMAM.
On a des informations convergentes sur le fait que le mécontentement populaire avait en fait été alimenté par des pénuries artificiellement créées par l'armée. Et l'armée nous prouve que cette hypothèse est bien la bonne en s'éloignant jour après jour de l'agenda institutionnelle dont elle s'était présentée comme la garante. L'armée avait dit « je vais vous permettre d'aller plus loin dans le processus révolutionnaire et de tourner la page de l'échec du premier gouvernement issu des urnes ». Or, ce qui est en train de se passer, c'est que l'agenda de l'armée se rapproche de plus en plus du lexique et des pratiques de l'ancien régime de Moubarak.